Chapitre 6. Effaçage.
Et il est quasiment certain que les Chalcédiens auraient vaincu les marchands de Terrilville et se seraient approprié leur territoire s'ils avaient pu maintenir un blocus efficace sur la baie de Terrilville. Deux magies les ont contrariés dans cette entreprise, et il s'agissait bel et bien de magie, quoi qu'en disent d'aucuns, car chacun le sait, les marchands sont des négociants et non des guerriers. Tout d'abord, ils possèdent des vives nefs, bâtiments de commerce qui, par quelques pratiques mystérieuses qui exigent le sacrifice de trois enfants ou doyens d'une famille, accèdent à la vie et à la sensibilité. Les figures de proue de ces navires sont douées non seulement de la parole et du mouvement, mais aussi d'une force prodigieuse qui leur permet de broyer des bâtiments de moindre taille lorsqu'elles s'en saisissent. Certaines sont capables de cracher le feu jusqu'à une distance égale à trois fois la longueur de leur vaisseau. Les ignorants contesteront sans doute l'existence de la seconde magie comme de la première, mais comme votre serviteur fut lui-même témoin de ses effets, il ne craint pas ceux qui n'y voient que mensonge. Un dragon, habilement fabriqué à l'aide de pierres précieuses bleues et argent, et animé par une combinaison merveilleuse de magie et de... Ici, le parchemin est endommagé et ne permet pas la lecture. Fut créé en hâte par les artisans de Terrilville pour défendre leur port. Cette créature, baptisée Tinitgliat par ses auteurs, s'éleva des ruines fumantes auxquelles les Chalcédiens avaient réduit le quartier des entrepôts et chassa les navires ennemis des eaux de Terrilville. Mais tribulation autour du monde, de Vinfroda. Je suivis en sens inverse le dédale de passage secret pour arriver enfin à la cellule qui me servait de chambre. Par le hutton, j'en scrutais l'obscurité avant d'entrer, puis, une fois dedans, je refermais soigneusement le battant derrière moi. Je m'immobilisais alors dans le noir. J'avais entendu des voix de l'autre côté de la porte qui donnaient chez le fou.
« Ma foi, j'ignore quand il est parti et pourquoi. Je n'ai donc aucune idée de l'heure à laquelle il compte revenir. L'idée m'a paru tout d'abord exquise d'engager un homme d'armes robuste et compétent, capable non seulement de me protéger des brigands des rues, mais aussi de me servir de valet et de répondre à mes autres besoins. Et il s'est hélas révélé indigne de confiance en ce qui concerne les tâches ménagères. Regardez ma table. J'ai dû saisir au vol un page dans le couloir et lui ordonner de faire monter mon petit déjeuner, et ce qu'on m'a apporté ne correspond pas du tout à mes goûts. Je suis fort tenté de renvoyer ce blaireau, mais avec ma cheville blessée, le moment est mal choisi pour me passer d'un domestique vigoureux. Enfin, peut-être vais-je devoir m'accommoder de ses limites et embaucher un page ou deux pour les corvées quotidiennes. Mais voyez donc la couche de poussière sur ce manteau de cheminée. C'est honteux! Je ne puis recevoir des visiteurs dans un salon dans cet état. J'en viens presque à me réjouir que mon entorse m'oblige actuellement à un certain isolement. »
Je ne remuais plus un cil. Je voulais savoir à qui il s'adressait et pourquoi son interlocuteur me cherchait. Mais je ne pouvais guère sortir soudain de ma chambre alors que le fou avait affirmé que j'étais absent.
« Très bien. Dans ce cas, puis-je laisser un message pour votre valet, Sire Doré ?»
La voix était celle de Laurier, qui ne cherchait pas à dissimuler son irritation. Elle avait observé de trop près nos relations lors de notre aventure commune pour se laisser prendre à notre comédie. Nous étions si souvent sortis de nos rôles respectifs qu'elle ne pouvait plus croire que notre couple était seulement celui d'un maître et de son domestique. Toutefois, je comprenais aussi pourquoi Sire Doré persistait à maintenir notre façade. Toute autre attitude aurait inévitablement abouti à ce que la cour apprît un jour ou l'autre la vérité.
« Certainement, à moins que vous ne préfériez revenir ce soir, vous seriez la bienvenue et vous auriez peut-être la chance qu'il se fût rappelé ses devoirs et eût regagné son poste. »
S'il avait voulu apaiser Laurier, c'était un échec. « Un message suffira. En passant dans les écuries, j'ai remarqué un détail inquiétant chez sa jument. S'il veut bien me retrouver auprès d'elle à midi, je le lui montrerai.
Et s'il n'est pas rentré à cette heure, par ça que je déteste cette situation. » Être obligé de jouer les secrétaires de mon propre valet. »
Laurier interrompit son monologue aux accents de tragédien.
« Sire Doré, je suis très inquiète. Assurez-vous qu'il soit ponctuel au rendez-vous ou qu'il se débrouille pour me trouver. Bonne journée. »
Et elle ferma sèchement la porte. J'attendis quelques minutes encore afin d'être sûr que le fou était bien seul. Puis j'ouvris sans bruit ma propre porte, sans toutefois parvenir à prendre en défaut les sens supérieurement affinés de mon ami.
« Te voici ?
s'exclama-t-il avec un soupir de soulagement. Je commençais à me faire du souci pour toi. Il me regarda de plus près et un sourire éclaira son visage.
La leçon du prince paraît s'être très bien déroulée.
Le prince a préféré ne pas s'y présenter. Et je regrette les embarras que je t'ai causés. J'ai complètement oublié de faire préparer le petit déjeuner de cire dorée. Il écarta mes excuses d'un geste désinvolte.
Crois-moi, te connaissant, je n'attends pas de toi la compétence d'un véritable domestique. Je suis parfaitement capable de m'occuper seul de mes repas. Il sied toutefois que j'élève quelques plaintes quand je me vois obligé d'arrêter un page pour me servir. Je pense avoir fait maintenant assez d'histoires pour ajouter un jeune serviteur à mon personnel sans éveiller de curiosité déplacée.
Il se servit une tasse de tisane, en but une gorgée et fit la grimace.
Oh, froid !
Il désigna de la main les restes de son repas.
Tu as faim ?
Non, j'ai mangé avec Ketriken. Il hocha la tête sans marquer de surprise.
Le prince m'a fait parvenir un message ce matin, dont le sens me devient clair à présent. Il disait « J'ai constaté avec tristesse que votre blessure vous empêchait de participer au bal de ma cérémonie de fiançailles. Je sais combien il est désagréable qu'un contretemps imprévu interdise un plaisir attendu de longue date. Je vous souhaite de tout cœur d'être en mesure de reprendre bientôt vos activités favorites. »
Je souris satisfait. C'est adroitement tourné, il parvient à transmettre ce qu'il veut dire. Notre prince apprend la subtilité. Le fou acquiesça.
Il a la finesse d'esprit de son père.
Je tournai vers lui un regard acéré, mais il affichait une expression parfaitement innocente. Il poursuivit.
Tu as un autre message, de Laurier cette fois.
Oui, j'ai entendu.
Je m'en doutais.
Je secouai la tête. Celui-là m'intrigue et m'alarme à la fois. À sa façon de s'exprimer, ce rendez-vous n'a sans doute aucun rapport avec ma monture. Mais je m'y présenterai tout de même pour savoir de quoi il retourne. Ensuite, j'aimerais descendre à bourg de Castelserre, voir Heure, et m'excuser auprès de Gina. Il haussa ses sourcils pâles d'un air interrogateur. J'avais dit que je passerais chez elle hier soir pour parler à Heure, mais comme tu le sais, j'ai dû assister avec toi aux festivités des fiançailles. Il saisit un petit bouquet blanc posé sur son plateau et le huma d'un air songeur.
Tous ces gens qui veulent un peu de ton temps.
Je soupirai. Ce n'est pas facile pour moi. Je ne sais pas jongler avec tous mes devoirs. Je m'étais habitué à mon existence d'ermite où les seules demandes provenaient d'œil de nuit et dehors, et je crois que je me débrouille pas très bien. J'ignore comment Imbre réussit à répondre à toutes ses tâches depuis tant d'années. Le fou sourit.
C'est une araignée, une tisserande dont les fils partent dans toutes les directions. Lui, il est installé au centre de la toile et il interprète les vibrations.
Je lui rendis son sourire. Ouais, c'est bien ça. Ce n'est pas très flatteur, mais c'est bien ça. Il pencha soudain la tête.
C'est Ketriken alors, n'est-ce pas?
Pas Imbre. Je ne comprends pas. Il baissa les yeux sur ses doigts entre lesquels il faisait tourner le bouquet.
Tu as changé. Tes épaules sont de nouveau droites. Tu me regardes en face quand je te parle. Je n'ai plus l'envie constante de jeter un coup d'œil derrière moi pour voir s'il n'y a pas un fantôme dans mon dos.
Délicatement, il reposa les fleurs sur la table.
Quelqu'un t'a ôté une partie de ton fardeau.
Oui, c'est Ketriken, fis-je au bout d'un moment. Je m'éclaircis la gorge. Elle était plus proche d'œil de nuit que je ne le croyais. Elle aussi pleure sa disparition.
Tout comme moi.
Je pesai mes mots avant de les prononcer, incertain qu'ils fussent nécessaires, craignant qu'ils ne fissent mal au fou.
C'est différent.
Ketriken pleure œil de nuit comme moi, pour lui et pour ce qu'il représentait pour elle. Toi. J'hésitais, ne sachant comment tourner mes paroles.
Je l'aimais à travers toi. C'est par notre relation qu'il était devenu réel à mes yeux. Dans un sens donc, je ne pleure pas œil de nuit comme toi. Je souffre de ta souffrance.
Tu as toujours eu plus de talent que moi pour exprimer les sentiments.
En effet.
Il soupira et croisa les bras sur sa poitrine.
Ma foi, je suis heureux que quelqu'un ait pu t'aider, même si je suis jaloux de Ketriken.
Avait-il perdu la tête ? Tu es jaloux de sa tristesse ?
Non, je l'envie d'avoir su te consoler. »
Puis, avant que j'eusse le temps de songer à une réponse, il ajouta d'un ton vif.
« Je te laisse le soin de rapporter la vaisselle aux cuisines.
Veille à te montrer maussade, car tu viens de recevoir une sévère réprimande de ton maître. Ensuite, tu peux aller voir Laurier et te rendre à Bourg de Castelserre. J'ai l'intention de passer une journée au calme à poursuivre mes propres recherches. J'ai fait annoncer que ma cheville me faisait mal, que je souhaitais me reposer et que je ne voulais pas de visite. Cet après-midi, je suis invité à participer à un jeu avec les favoris de la reine. Si tu ne me trouves pas ici, cherche-moi chez elle. » « Seras-tu revenu pour m'aider à descendre au dîner ?»«
J'espère. » Son visage s'assombrit soudain, comme s'il souffrait vraiment. Il hocha gravement la tête.
« Je te verrai peut-être à ce moment-là. »
Il quitta la table, se dirigea vers sa chambre, ouvrit la porte sans un mot et la referma soigneusement derrière lui. Je rassemblai les plats et les couverts sur le plateau. Malgré ma soi-disant incompétence comme domestique, je mis toute la pièce en ordre, puis descendis le plateau aux cuisines avant de rapporter du bois et de l'eau. La porte de la chambre du fou resta close. Était-il indisposé? J'étais prêt à frapper à son nuit, mais il était déjà près de midi. Je me rendis donc dans ma propre chambre pour ceindre mon épée de service, prendre quelques pièces dans la bourse que m'avait donnée Ketriken et cacher le reste sous un coin de mon matelas. Je vérifiai que mes poches secrètes étaient bien garnies, décrochai ma cape et gagnai les écuries. Avec l'afflux de visiteurs provoqués par les fiançailles du prince, elles étaient totalement occupées par les montures des invités. Les chevaux des rangs moindres, dont je faisais partie, avaient été transférés dans les vieilles écuries, celles de mon enfance, ce qui me convenait parfaitement. Je risquais beaucoup moins d'y tomber nez à nez avec Pogne ou d'autres personnes qui auraient conservé le souvenir du petit protégé du maître d'écurie Buric. Je trouvai Laurier accoudé au battant du box de manoir, occupé à parler doucement à l'oreille de la jument. Avais-je mal interprété son message? Je me sentis envahi d'inquiétude pour l'animal et me hâtai de rejoindre la jeune femme. « Qu'a-t-elle ? » demandai-je, avant de me rappeler mes manières. « Bonjour, grand-veneuse Laurier. Me voici comme vous le souhaitiez. » L'air indifférent, Manoir ne nous accordait aucune attention. « Bonjour, Blaireau. Merci d'honorer mon rendez-vous. » Elle jeta un coup d'œil alentour, mine de rien. Il n'y avait personne dans notre coin des écuries, mais elle se pencha quand même vers moi pour murmurer. « Il faut que je vous parle en privé. Suivez-moi. » « Comme il vous plaira, madame. » Elle s'éloigna à grandes enjambées. Je lui emboîtai le pas. Nous longeâmes les rangées de boxe jusqu'au fond du bâtiment, puis, à mon immense surprise, nous nous engageâmes dans l'escalier aux marches aujourd'hui branlantes qui menait à la soupente de Buric. À l'époque où il avait la charge des écuries, il déclarait préférer vivre près de ses animaux plutôt que dans un logement plus luxueux dans le corps du château. Et je croyais alors que c'était la vérité. Mais, les années passant, j'étais arrivé à la conclusion qu'il conservait cet humble séjour autant pour préserver son intimité que pour éviter qu'on me remarque trop. Aujourd'hui, alors que je suivais Laurier, je m'interrogeais. Que savait-elle? M'emmener dans mon vieux galta, lui servirait-il de prélude pour m'annoncer qu'elle avait découvert ma véritable identité? La porte n'était pas verrouillée. Elle la poussa de l'épaule et le bâton racla contre le plancher. Laurier pénétra dans la pièce obscure et me fit signe de l'imiter. Je courbai la tête pour éviter une toile d'araignée alourdie de poussière, tendue en travers de l'encadrement. La seule lumière filtrait par l'entrebâillement du volet disjoint qui fermait la fenêtre à l'autre bout du réduit. Que tout me paraissait étriqué. Les quelques meubles qui nous avaient suffi, à Buric et moi, avaient disparu depuis longtemps, remplacés par les rebuts habituels d'une écurie, vieux morts tordus, outils cassés, couvertures mangées au mythe. Tout le matériel usagé qu'on met de côté avec l'idée qu'on le réparera un jour ou qu'il pourra encore servir le cas échéant. Tout ce fourbi encombrait la chambre où j'avais passé mon enfance. Je voyais d'ici la réaction horrifiée de Buric à ce spectacle. Je m'étonnais moi-même que Pogne laisse s'accumuler une telle pagaille, et puis je songeais qu'il avait sûrement des soucis autrement urgents. Les écuries représentaient une responsabilité plus lourde et de plus grande importance qu'au temps de la guerre des pirates rouges. Il ne passait certainement pas ses nuits à graisser et à remettre en état de vieux harnais.
Laurier se méprit sur mon expression. « Je sais, ça ne sent pas bon ici, mais au moins c'est à l'écart.
Je vous aurais volontiers parlé dans votre chambre si le seigneur Doré n'avait pas été trop occupé à jouer les aristocrates.
Mais c'est un aristocrate, protestai-je, et puis je me tus devant le regard noir qu'elle m'adressa. Je m'aperçus avec retard que Sire Doré lui avait accordé beaucoup d'attention pendant notre voyage, mais qu'il n'avait pas échangé une seule parole lors de la soirée précédente.
Ah ! Peu importe ce qu'il est et qui vous êtes réellement.
Elle chassa de son esprit l'agacement qu'elle éprouvait envers nous, manifestement préoccupée par des questions plus graves.
J'ai reçu un message de mon cousin. La mise en garde de Fra de Serre n'était pas adressée à vous, mais à moi. Et je ne pense pas qu'il approuverait que je vous la transmette, car il a de très bonnes raisons de ne pas vous aimer. Toutefois, la reine paraît vous tenir dans une certaine estime, et je lui suis fidèle.
« Tout comme moi, » répondis-je. « Lui avez-vous fait part de ce fameux message ?»
Elle se tut un instant.
« Pas encore, » avoua-t-elle.
« Il est possible que ce ne soit pas nécessaire, que vous soyez en mesure de régler seul cette affaire. En outre, il est moins facile pour moi de trouver un moment seul avec Sa Majesté que de vous faire mander. »
« Et cette mise en garde ?»
Il me presse de fuir. Les pies savent qui je suis et où je vis, et je les ai doublement trahis à leurs yeux. Par la famille dont je suis issu, ils me considèrent comme du lignage, or je sers le régime loin-voyant qu'ils haïssent. Ils me tueront s'ils en ont l'occasion. »
Elle m'avait exposé la menace qui pesait sur elle, d'une voix où ne filtrait aucune émotion. Mais elle baissa le ton et détourna le regard pour ajouter « Et cela vaut pour vous aussi. »
Le silence tomba entre nous. Je réfléchis en regardant des particules de poussière danser dans le ray de soleil qui passait par les volets. Puis Laurier reprit au bout d'un moment.
« Le message m'apprend aussi que l'eau de vin s'étiole dans l'attente de la cicatrisation du moignon que vous lui avez laissé. À la suite de notre petite aventure, nombre de ses partisans l'ont abandonné pour revenir aux authentiques traditions du lignage, et les familles ont fait pression sur leurs fils et leurs filles pour qu'ils rejettent la politique extrémiste des Pies. Beaucoup partagent le sentiment que la reine fait des efforts sincères pour améliorer le sort des gens du lignage. La nouvelle que son fils a le vif s'est répandue et il lui porte désormais une certaine bienveillance. Ils sont prêts à se retenir d'agir, pour l'instant du moins, en attendant de voir quelle sera son attitude envers nous.
« Et ce qui reste chez les Pies ?» demandai-je non sans répugnance.
Laurier secoua la tête. « Les fidèles de Lodvin sont les plus dangereux et les plus jusqu'au boutistes. Il attire ceux qui veulent faire couler le sang et semer l'anarchie, qui ont plus soif de revanche que de justice, de pouvoir que de paix. Certains, comme lui, ont vu leur famille et leurs amis exécutés parce qu'ils avaient le vif. D'autres ont plus de folie que de sang dans les veines. Ils ne sont pas nombreux, mais ils ne s'arrêteront à rien pour atteindre leurs objectifs, ce qui les rend aussi redoutables qu'une armée entière.
Leurs objectifs ?
Rien de compliqué. L'autorité pour eux, le châtiment pour ceux qui ont opprimé les vifiés. Ils détestent les loin-voyants, mais plus encore, ils vous détestent vous. Et Lodvin ne se prive pas de jeter de l'huile sur le feu. Il se vautre dans la haine et la répand sur ses affidés comme si c'était de l'or. Vous avez éveillé leur fureur contre ceux du lignage qui lèchent les bottes des tyrans loin-voyants. Les sbires de Lodvin exercent des représailles sur les gens du lignage qui vous ont prêté main forte pour faire échec aux Pies. Des maisons ont été incendiées, des troupeaux éparpillés ou volés. Ces agressions se produisent déjà, mais on nous menace de pire encore. Les Pies déclarent qu'ils dénonceront quiconque refusera de s'allier à eux contre les loin-voyants, et ils s'amusent de songer que nous pourrions nous laisser exécuter par ceux-là même auxquels nous ne voulons pas nous opposer. Selon eux, les gens du lignage doivent choisir, ou bien faire cause commune avec eux, ou bien être éliminés de la communauté.
Le visage grave de Laurier avait pâli. Je compris qu'une menace pesait sur sa famille, et mes entrailles se nouèrent à l'idée que j'en étais en partie responsable. Je pris mon souffle.
Ce que vous dites n'est pas complètement nouveau pour moi. Il y a quelques nuits à peine, un groupe de Pies m'attendait sur la route qui monte de Bourg de Castelserre. Ce qui m'étonne, c'est qu'il m'ait laissé la vie sauve.
Elle haussa les épaules pour exprimer non son indifférence devant le danger que j'avais couru, mais l'impossibilité de comprendre les Pies.
Vous représentez une cible très particulière. Vous avez tranché une main à Lodvin, vous êtes du lignage, vous servez les loin-voyants
et vous vous opposez clairement aux pies. » Elle secoua de nouveau la tête. « Ne vous bercez pas de faux espoirs du fait qu'ils ne vous ont pas touché alors qu'ils avaient l'occasion de vous abattre facilement. Cela signifie simplement qu'ils ont besoin de vous vivant. Mon cousin me l'a laissé entendre en m'écrivant que je m'étais peut-être fourvoyé en pire compagnie que je ne m'en rendais compte. » Les pies font courir le bruit que Tom Blaireau et Sieur Doré n'étaient pas ceux qu'on croyait. Ce n'est pas une nouveauté pour moi, mais Fra de Serre paraît s'en inquiéter. Elle s'interrompit comme pour me laisser la parole. Je me tus, mais réfléchis frénétiquement. Les pies avaient-ils fait le rapprochement entre Tom Blaireau et le bâtard au vif des chansons et des légendes? Et si oui, quel besoin pouvait-il avoir de moi, qui exige que je demeure en vie? S'ils avaient voulu s'emparer de moi pour faire pression sur les loin voyants, ils en avaient eu le loisir l'autre soir. Laurier fronça les sourcils et coupa le fil de mes réflexions en reprenant. Leurs agressions et autres opérations contre leur propre sang montent ceux du lignage contre eux, même parmi d'anciens membres de leur mouvement. Certaines attaques auraient pour but de régler de vieux comptes ou d'assurer des profits personnels plutôt que de répondre à des motifs élevés, et nul n'y met de frein. L'eau de vin reste trop faible pour reprendre sa place de chef, sujet à des crises de fièvre à la suite de sa mutilation. Ses plus proches compagnons vous en haïssent doublement, et quand ils le décideront, leur vengeance s'abattra sur vous comme l'éclair. La preuve, vous n'êtes de retour à Castelcerf que depuis quelques jours, et ils vous ont déjà repéré. » Nous demeurâmes quelque temps sans rien dire dans la pièce poussiéreuse, chacun plongé dans des pensées trop noires pour les partager. Laurier reprit finalement la parole avec réticence. « Comprenez-moi bien. Fra de Serre conserve des relations avec les pies. Ils lui font du charme pour le ramener dans leur camp, et il doit feindre d'y être sensible afin de protéger notre famille. Sa position est extrêmement délicate. Il surprend des conversations très dangereuses à répéter, mais cela ne l'a pas empêché de me prévenir. » Elle parlait d'une voix hachée, en regardant la fenêtre aux volets fermés, comme si elle voyait le paysage au-delà. Je compris ce qu'elle s'efforçait d'exprimer. « Vous devriez parler à la reine, lui expliquer qu'il faut donner à Fra de Serre l'apparence d'un traître à la couronne pour préserver votre famille. Fuirez-vous comme il vous le demande ?» Elle secoua lentement la tête. « Fuir où ? Dans ma famille ? Je ne ferai que la mettre davantage en péril. Ici au moins, les pies doivent s'exposer au danger pour m'attraper. Non. » Je resterai à Castelcerf pour servir ma reine. » Je me demandais si Imbre serait en mesure de la protéger, sans parler de son cousin. Elle reprit d'une voix monocorde. « Fra de Serre me dit que, selon certains bruits, l'épi serait en train de former une alliance avec des tiers, des gens puissants qui ne demanderaient qu'à détruire les loin voyants et à les remplacer par des affidés de l'eau de vin. » Elle me regarda d'un air soucieux. « Ça sonne comme une fanfaronnade creuse, non ? Ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas ?»« Mieux vaut tout de même en avertir la reine. » J'espérais n'en laisser rien paraître, mais c'était tout à fait plausible. J'allais devoir rendre compte à Imbre. « Et vous ? » demanda-t-elle. « Allez-vous fuir ? Ce serait préférable, je pense, car vous fourniriez un parfait accessoire aux pies. Dénoncer, vous démontreriez que des vifiers se cachent jusque dans les murs de Castelcerf. Démembrés et brûlés, vous serviriez d'exemple aux autres traîtres du lignage. Ceux qui renient et trahissent les leurs finissent à leur tour trahis par les leurs. » Elle n'avait pas le vif, au contraire de son cousin. La magie coulait dans le sang de sa famille, pourtant elle éprouvait de l'aversion pour elle et ceux qui la maniaient. Comme la plupart des habitants des six duchés, elle considérait mon aptitude à percevoir l'esprit des animaux et à me lier à eux comme une magie méprisable. Son emploi du terme « traître » aurait dû peut-être m'en paraître moins cinglant, mais le dédain de ses paroles me cuisit néanmoins douloureusement. Je ne suis pas félon, lignage. Je me plie seulement au serment que j'ai prêté aux loin voyants. Si le lignage n'avait pas tenté de nuire au prince, je n'aurais pas été obligé de le lui reprendre de force. « Je ne fais que répéter les mots de mon cousin, » répondit sèchement Laurier. « Il me les a envoyés pour que j'avertisse la reine, d'abord parce qu'il se sent une dette envers moi, ensuite parce que, de tous les derniers souverains loin voyants,
Sa Majesté se montre la plus tolérante à l'égard du lignage. Il veut lui éviter toute humiliation publique ou perte d'influence. À mon avis, il croit qu'elle se débarrasserait de vous si elle apprenait qu'on peut vous utiliser contre elle. Mais je la connais. Elle ne tiendra aucun compte de mes mises en garde, et elle ne vous renverra pas de Castelserre malgré le risque.
Ah. Tel était donc le véritable message de la jeune femme. Vous pensez donc qu'il vaudrait mieux pour tout le monde que je m'éclipse, en épargnant à la reine d'avoir à m'en prier. Son regard devint lointain, et elle parut s'adresser au vide.
Vous êtes brusquement apparu d'on ne sait où. Il serait peut-être bon que vous y retourniez.
Je réfléchis un moment à cette option. Oui, je pouvais me rendre aux écuries, sceller ma noire et disparaître. Heure était en apprentissage, et Imbre s'arrangerait pour qu'il y demeure jusqu'au bout. Pour ma part, j'avais toujours envisagé avec répugnance d'enseigner l'art à devoir, et encore plus ce que je savais sur le vif. En effet, c'était peut-être la solution la plus simple, et pourtant. Ce n'est pas moi qui ai voulu venir à Castelserre. Je m'y suis rendu à la demande de ma reine. Par conséquent, je reste. D'ailleurs, mon départ ne changerait rien aux menaces qui pèsent sur elle. Lodevin et ses partisans n'ignorent pas que le prince a le vif.
« Je me doutais de votre réponse, » fit Laurier. « Et, pour ce que j'en sais, il est possible que vous ayez raison. Je transmettrai tout de même l'avertissement à la reine. »
« En quoi vous serez fidèle à votre serment d'allégeance? Néanmoins, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'en faire part. Je sais que je n'ai guère donné de motif à Fra de Serre de m'apprécier, mais c'est volontiers que j'enterrerai tout ce qui a pu se passer entre nous. Si vous en avez l'occasion, dites-lui que je n'ai rien contre lui, ni contre ceux qui suivent les véritables traditions du lignage. Mon service va d'abord et avant tout au loin voyant. Rien de plus.
C'est aussi mon cas, fit-elle d'un air sombre.
Vous ne m'avez pas parlé des intentions de Lodevin en ce qui concerne le prince de Voir.
Parce que le message de Fra de Serre n'en fait pas mention. Je peux donc seulement vous répondre que je ne les connais pas.
Je vois. Et nous n'eûmes soudain plus rien à nous dire. Je laissai partir Laurier la première, afin qu'on ne nous vît pas ensemble, et je m'attardai plus que nécessaire dans la vieille soupente. Sous la poussière qui recouvrait l'appui de la fenêtre, je distinguai les griffures que, par désœuvrement, j'avais tracées dans le bois de la pointe de mon couteau. J'observai le plafond incliné au-dessus de l'ancien emplacement de ma paillasse, et retrouvai la silhouette de Hibou dans les veines du bois. Il ne restait pas grand-chose de notre présence, à Burick et moi. Le temps et les occupants successifs nous avaient effacés de la pièce. Je sortis et refermai la porte derrière moi. J'aurais pu prendre ma noire pour descendre à bord de Castelserre, mais je préférais marcher malgré la brise frisquette. Je reste convaincu qu'il est plus difficile de filer un homme à pied qu'à cheval. Je franchis les portes de l'enceinte sans incident ni commentaire et poursuivis mon chemin d'un pas vif, mais... Dès que je me trouvais hors de vue des gardes et des passants, je quittais la route, me cachais dans les broussailles du sous-bois et vérifiais que nul ne me suivait. À force de rester immobile, je sentis la vieille blessure de mon dos commencer à m'élancer. Il y avait de l'humidité dans l'air, annonciatrice de pluie ou de neige pour la nuit. J'avais froid au bout du nez et des oreilles. Je finis par me convaincre que je ne faisais l'objet d'aucune surveillance. Ce qui ne m'empêcha pas d'exécuter à deux reprises encore la même manœuvre avant d'arriver au bourg. J'empruntai un trajet détourné pour me rendre chez Gina, à la fois par prudence et par indécision. J'avais envie de lui offrir un cadeau pour m'excuser de mon absence la veille et la remercier de l'aide qu'elle m'apportait pour heure, mais je ne parvenais pas à fixer mon choix. Des boucles d'oreilles me paraissaient un présent exagérément personnel qui prêterait à notre relation une nature trop définitive. L'écharpe de laine aux couleurs vives qui retint mon attention chez un tisserand m'inspira les mêmes réflexions. Des filets de saumon fumé excitèrent mon appétit, mais me semblèrent peu appropriés. Adulte, je me retrouvais confronté aux affres de l'indécision d'un adolescent. Comment exprimer remerciements, excuses et intérêt pour elle sans apparaître exagérément reconnaissant, mortifié, et intéressé. Non. Ce qu'il me fallait, c'était un présent qu'on fait à une amie, et je résolus de choisir quelque chose que j'eusse pu offrir sans gêne aux fous ou à Heure. Je me décidai pour un sac de noix de Ève de la dernière récolte, charnue et brillante, et une miche fraîche de pain aux épices. Ainsi muni, c'est presque avec assurance que je toquai à la porte marquée du signe de la chiromancie.
« Un instant !»
fit Gina de l'intérieur. Et puis, elle ouvrit la moitié haute de lui, les yeux plissés à cause du soleil. Il faisait sombre derrière elle. Les volets étaient clos et des bougies parfumées brûlaient sur la table.
« Ah, Tom, je suis en pleine séance avec un client. Vous pouvez attendre ?»«
Naturellement. »«
Parfait !»
Et elle claqua le bâton, me laissant planter dehors. Ce n'était pas l'accueil que j'avais espéré, mais, en y réfléchissant, je ne méritais pas mieux. Je patientais donc humblement en regardant la rue et les passants, et en tâchant de paraître à mon aise malgré le vent mordant. La maison de la sorcière des haies se dressait dans un quartier tranquille de Bourg-de-Castelserre, et pourtant un flot réduit mais régulier de gens empruntait sa rue. Elle avait pour voisin un potier. Sa porte était fermée au vent, ses produits empilés à côté d'elle, et j'entendais le tour cogner sourdement. En face vivait une femme dotée d'un nombre invraisemblable d'enfants en bas âge, dont plusieurs paraissaient déterminés à s'échapper dans la rue boueuse malgré le froid. Une fillette, guère plus vieille qu'eux, ramenait inlassablement les petits fuyards sous l'auvent de la maison. D'où je me tenais, j'entreapercevais l'entrée d'une taverne au bout de la rue. L'enseigne suspendue au-dessus représentait un porc coincé dans une clôture, et la majorité des clients venaient, semblait-il, se ravitailler en bière qu'ils emportaient chez eux dans de petits seaux. Je commençais à me demander si je devais m'en aller ou tenter de frapper à nouveau à la porte quand elle s'ouvrit. Une femme d'âge mûr, aux vêtements coûteux, et ses deux filles sortirent. La plus jeune avait les larmes aux yeux, tandis que sa sœur avait l'air de s'être ennuyée à mourir. La mère remercia Gina longuement, et avec effusion, avant d'ordonner, d'un ton hargneux à ses rejetons, de cesser de rester les bras ballants et de l'accompagner. Le regard qu'elle me lança au passage n'avait rien d'appréciateur. Si j'avais imaginé que Gina m'avait laissé dehors par esprit de rancune, le sourire à la fois chaleureux et las qu'elle m'adressa chassa bien vite cette idée. Elle portait une robe verte, avec une large ceinture jaune qui lui serrait la taille et soulevait sa gorge. Cette tenue la mettait bien en valeur.
« Entrez, entrez, Pareda, quelle matinée! C'est quand même curieux. Les gens veulent à tout prix savoir ce qu'on lit dans leurs paumes, mais une fois sur deux, quand on le leur dit, ils n'y croient pas. »
Elle ferma la porte derrière moi, et nous nous retrouvâmes dans une demi-obscurité. Je m'excuse de n'être pas passé hier soir. Mon maître m'a donné des tâches à effectuer. Je vous ai apporté du marché du pain frais aux épices.
« Comme c'est gentil !» Je vois que vous avez aussi acheté des noix de Ève. Si j'avais su que vous aimiez ça. Les arbres de ma nièce ont tant donné cette année qu'on ne sait plus quoi faire de toutes ces noix. Un de ses voisins va peut-être lui en acheter pour nourrir ses porcs, mais il y en a tant qu'on y enfonce jusqu'aux chevilles dans le verger.
Eh bien, autant pour les fruits. Mais elle me prit le pain des mains et le posa sur la table en s'exclamant de ravissement sur sa bonne odeur. Puis elle me dit que Heure se trouvait évidemment chez son maître. Sa nièce avait emprunté la ponette et la carriole pour aller chercher du bois pour le feu. Et Gina espérait que je ne m'en formalisais pas. Heure lui avait donné l'autorisation, en ajoutant qu'il valait mieux pour la vieille bête d'accomplir des tâches légères que rester à l'écurie à ne rien faire. Je l'assurai que c'était tout à fait exact. « Et Fenouil, il n'est pas là ?» demandai-je, étonné de l'absence du chat.
« Fenouil ?»
Elle parut surprise de ma question.
« Oh, vous connaissez les chats ?» Il doit traîner dehors, occupé à ses propres affaires.
Je posai le sac de noix près de la porte et suspendis ma cape au-dessus. Il faisait bon dans la petite pièce et mes oreilles me cuisaient en recouvrant leur sensibilité. Comme je me retournais vers la table, je constatai que Gina avait servi deux tasses de tisane, et la vapeur qui s'en élevait annonçait une chaleur bienvenue. Un ramequin de beurre et un pot de miel accompagnaient le pain.
« Avez-vous faim ?»
me demanda-t-elle en levant les yeux vers moi. Un sourire aux lèvres.
Un peu, avouai-je.
Son sourire était contagieux. Elle me dévisagea.
Moi aussi,
dit-elle. Puis elle s'avança, et je la retrouvai dans mes bras tandis que sa bouche montait à la rencontre de la mienne. Je dus me courber pour l'accueillir. Ses lèvres s'ouvrirent sous mes lèvres. Elles avaient goût de tisane et d'épices. La tête me tourna soudain. Elle rompit le baiser pour appuyer sa joue contre ma poitrine.
« Tu es glacé ? »
fit-elle.
« Je n'aurais pas dû te laisser dehors. »«
Ne t'inquiète pas, je me réchauffe, » répondis-je. Elle leva les yeux vers moi et sourit.
« Je sais, oui. »
Et comme elle plaquait sa bouche sur la mienne, sa main descendit en chercher la preuve. Je tressaillis à ce contact, mais l'autre main sur ma nuque, elle maintint mes lèvres sur les siennes. Elle nous emmena en crabe dans sa chambre sans jamais interrompre notre baiser. Puis elle se détacha de moi pour refermer la porte. L'obscurité était presque complète, hormis les petits raies de lumière qui passaient par les fentes des bardeaux du toit et entre les chevrons d'une petite soupente. Des édredons bedonnaient sur le lit et il régnait un parfum de femme dans la pièce. Je m'efforçais de reprendre mon souffle et mes esprits. « Ce n'est pas raisonnable, » dis-je. C'est à peine si je parvins à prononcer ces quelques mots.
« Non, c'est vrai. »
Ses doigts relâchèrent les lacets de ma chemise et durcirent mon désir. Elle me poussa doucement en arrière et je m'assis au bord de son lit. Comme elle faisait passer ma tunique par-dessus ma tête, mon regard tomba sur une amulette posée sur la table de chevet, chapelet de perles rouges et noires entortillées autour d'un cadre de petits bouts de bois. J'eus l'impression de recevoir une douche glacée qui éteignit mes envies et m'inspira un sentiment de futilité. Alors qu'elle dégrafait sa ceinture, ses yeux suivirent mon regard, puis elle étudia mon expression et secoua la tête en souriant.
« Ah ! En voilà un grand sensible. Ne t'occupe pas de ce charme. C'est à moi qu'il est destiné, pas à toi. »
Et elle le recouvrit d'un geste désinvolte avec la chemise qu'elle me prit des mains. Je me trouvais alors dans un état de lucidité où j'aurais pu arrêter ce qui était en train de se produire, mais Gina ne me laissa pas le temps de m'en remettre à mon discernement. Ses mains se portèrent à mon ceinturon. Je sentis ses doigts chauds sur mon ventre et je cessai de réfléchir. Me dressant, j'ôtai sa robe dont le passage laissa ses cheveux ébouriffés et lui fit comme un nimbe bouclé autour de son visage. Puis nous restâmes un moment debout l'un contre l'autre à nous caresser. Elle fit une remarque appréciative sur l'amulette qu'elle m'avait fabriquée et qui, en cet instant, me vêtait seule. Quand elle me demanda d'où provenaient les griffures récentes qui balafraient ma gorge et mon ventre, je la bâillonnais d'un baiser. Je me rappelle l'avoir soulevée sans effort et m'être retourné pour la déposer sur le lit. Je m'agenouillais au-dessus d'elle, contemplais sa volupté, ses mamelons qui se dressaient, roses et ardents, et humais sa délicieuse fragrance féminine. Sans un mot, je m'allongeai sur elle et la possédai, soudain pris d'une irrésistible soif charnelle.
« Tom !»
fit-elle d'une voix hoquetante, saisie par ma fougue brutale. Mes mains agrippèrent ses épaules, ma bouche couvrit la sienne et elle monta, cambrée, à ma rencontre. Un effrayant besoin d'elle m'envahit soudain. La nécessité de la toucher, peau contre peau, dans l'intimité et la passion, de me partager complètement avec un autre être, d'oublier l'enfermement et la solitude de ma propre chair. Je ne retins rien, et je crus emporter Gina avec moi. Et puis, alors que je gisais sur elle dans le vertige de l'assouvissement, elle dit d'une petite voix,
« Eh bien, tu es rapide, Tom. »
Ma respiration rauque devint soudain un silence hideux. La honte m'inonda. Au sortir d'une terrible immobilité, Gina s'agita sous moi, et je l'entendis reprendre son souffle.
« Tu devais vraiment mourir de faim, dis donc. »
Elle regrettait peut-être d'avoir exprimé sa déception, mais ce qui était fait, et ses efforts bien intentionnés pour donner à ses paroles une tournure humoristique achevèrent de me mettre le rouge aux joues et de me plonger dans l'humiliation. Je laissai tomber mon front sur l'oreiller à côté d'elle. J'entendais le vent souffler dehors et des gens passer dans la rue, de l'autre côté du mur de planches. Un homme éclatant de rire me fit tressaillir. Dans la soupente, il y eut un bruit sourd suivi d'un couinement. Puis Gina m'embrassa dans le cou et ses mains coururent doucement sur mon dos. Elle dit dans un murmure apaisant,
« Tom, la première fois est rarement la meilleure. Tu m'as montré ta passion d'adolescent. Voyons tes talents d'adulte à présent, d'accord ?»
Elle m'offrait l'occasion de me rattraper et je lui en fus honteusement reconnaissant. Je procédais cette fois avec une habileté qui eut au fait de réveiller nos sens. Astérie m'avait enseigné plusieurs trucs, et Gina parut satisfaite de ma seconde prestation. Elle suscita pourtant l'inquiétude en moi à la fin, alors que nous haletions allongés l'un sur l'autre, en déclarant « Alors, Tom ?» Je la sentis reprendre son souffle sous moi. « C'est donc ainsi pour une louve ?» Je crus avoir mal entendu, et me redressai sur un coude pour la regarder. Elle cligna les yeux, un curieux sourire aux lèvres. « Je n'avais encore jamais couché avec un vifier, » fit-elle sur le ton de la confidence. Elle inspira de nouveau, plus profondément. « J'avais entendu d'autres femmes en parler. Elle disait que ce genre d'homme est plus... » Elle s'interrompit, cherchant le mot. « Animal, » suggérai-je. Le ton que j'avais employé en faisait une insulte. Elle écarquilla les yeux, puis éclata d'un rire gêné.
« Non, ce n'était pas le terme que j'allais utiliser, Tom. N'entends pas une injure quand on t'adresse un compliment. »
Indompté. Voilà ce que j'allais dire. Naturel, comme un animal peut l'être, sans souci de ce que les autres pensent de sa conduite.
Ah.
Je ne voyais pas qu'ajouter. Une question surgit tout à coup dans mon esprit. Qu'étais-je pour elle? Une curiosité? Une créature pas tout à fait humaine avec laquelle elle s'était laissée aller à des plaisirs interdits? Il était effrayant de songer qu'elle me considérait peut-être comme un être bestial et à part. Nos magies nous séparaient-elles donc à ce point à ses yeux? À cet instant, elle m'attira de nouveau contre sa poitrine et m'embrassa dans le cou.
« Cesse de réfléchir, »
me dit-elle d'un ton d'avertissement, et j'obéis. Elle resta ensuite à somnoler quelque temps contre moi, mon bras sous sa nuque, la tête reposant sur mon épaule. J'estimais ne pas m'être mal débrouillé, mais tandis que je regardais le soleil se déplacer lentement sur le mur, je pris conscience que nous avions seulement accompli une performance physique. Nous n'avions parlé d'amour, ni l'un ni l'autre. Nous avions simplement fait quelque chose ensemble, quelque chose d'agréable, pourquoi je manifestais une certaine compétence. Cependant, si la première fois avait laissé Gina inassouvie, les dernières me donnaient une impression plus profonde d'insatisfaction, et la nostalgie me reprit brutalement, plus aiguë que depuis bien des années, de Molly et de notre relation simple, douce et sincère. Cela n'avait rien à voir avec ce que je venais de vivre avec Gina, pas plus qu'avec ce que j'avais connu avec Astérie. La question n'était même pas de partager une couche. Au cœur de mon malaise, il y avait l'envie de tomber amoureux comme la première fois. Le désir de quelqu'un que je puisse toucher, qui me prenne dans ses bras, quelqu'un qui rehausse la valeur de tout le reste par sa simple existence. Ce matin-là, Ketriken m'avait serré contre elle comme un frère, et son étreinte avait eu plus d'importance et renfermait plus de passion que mes récents ébats. J'eus brusquement l'envie de m'en aller, de faire que rien ne se soit passé. Gina et moi étions en route pour devenir des amis. Je commençais à peine à la connaître. Où nous avais-je emmené? Et heure, il était dans le même bateau que moi. Si Gina désirait poursuivre cette relation, comment allais-je me débrouiller? Allais-je l'afficher publiquement au mépris des règles que j'avais enseignées à mon garçon sur la façon de mener sa vie? Ou bien la garder secrète, la cacher à heure, entrer furtivement dans le lit de Gina pour en ressortir tout aussi discrètement un peu plus tard? J'étais là à en mourir des mystères. J'avais l'impression qu'ils éclosaient sans cesse autour de moi pour se coller à ma peau et se nourrir de ma vie comme des sangsues glacées. J'avais soif de limpidité, de franchise, de sincérité. Pouvais-je transformer ma relation avec Gina dans ce sens? J'en doutais. Non seulement il n'existait entre nous aucun socle d'amour profond et sans faux semblant, mais je me trouvais déjà pris dans les raies des intrigues de Castelserre. Je serais obligé de lui sceller des secrets, des secrets qui finiraient par mettre son existence en danger. Je ne m'étais pas rendu compte qu'elle ne dormait plus, à moins que mon profond soupir ne l'eût tiré de sa somnolence. Elle tapota légèrement ma poitrine de la main.
« Ne t'en fais pas, Tom, tout n'est pas ta faute. Je pensais bien qu'il risquait d'y avoir un ennui quand je t'ai vu démonter en l'apercevant. Et maintenant tu te sens d'humeur morose, tu as des idées noires, non ?
Je haussai les épaules. Elle se redressa, se pencha en travers de moi en pressant sa chair tiède contre ma peau et ôta ma chemise de l'amulette. Le charme paraissait avachi sur la table, triste et désolé. Il est destiné aux femmes. Il est difficile à créer, et il doit être accordé très précisément à celle qui le porte. Pour en fabriquer un, il faut connaître la personne très intimement. C'est pourquoi une sorcière des haies peut en façonner un pour elle-même, mais pour personne d'autre, du moins de façon certaine. Celui-ci est à moi, accordé à moi. Il a pour but d'empêcher la conception. J'aurais dû me douter qu'il t'affecterait. Un homme qui désire des enfants si fort qu'il est prêt à prendre un petit abandonné pour l'élever est imprégné jusqu'au plus profond de lui-même de ce besoin. Tu peux le nier, mais ce petit espoir brûle en toi chaque fois que tu couches avec une femme. C'est pour cela que tu te montres si ardent, je pense, Tom. Or, cette petite amulette t'a dépouillé de ce souhait inexprimé avant même que tu aies le temps d'y songer. Elle t'a déclaré tout net que notre union serait vaine et inféconde. C'est l'impression que tu as en ce moment, n'est-ce pas ? Un vague halo expliqué n'est pas toujours résolu pour autant. Je détournai les yeux. « N'est-ce pas vrai ? » demandai-je, puis je fis la grimace en percevant l'amertume qui sous-tendait ma voix. « Mon pauvre » fit-elle d'un ton compatissant. Elle déposa un baiser sur mon front, au même endroit que Ketriken plus tôt. « Bien sûr que non. Le monde est ce qu'on en fait. Je ne puis me permettre d'être père. Je ne suis même pas passé voir Heure hier soir, alors qu'il m'avait dit que c'était important. Je ne veux pas donner le jour à une autre vie que je ne serais pas en mesure de protéger. » Elle secoua la tête. « Il y a une grande différence entre ce que désire le cœur et ce que sait l'esprit. N'oublie pas que j'ai lu tes lignes de la main, mon tendre. Je perçois peut-être mieux ton cœur que tu ne le connais toi-même. » « Tu as affirmé que mon véritable amour me reviendrait. » Encore une fois, malgré moi, j'avais donné un accent accusateur à mes paroles. « Non, Tom, c'est faux. Je sais bien que ce que je dis correspond rarement à ce que les gens entendent, mais je vais te répéter ce que j'ai vu. C'est ici. » Et elle prit ma main pour l'approcher de ses yeux myopes. Ses seins nus effleurèrent mon poignet, tandis qu'elle suivait du doigt une ligne de ma paume. « Il y a un amour qui va et vient, mêlé à ta vie. » Il s'éloigne parfois, mais alors il court parallèlement à toi, avant de revenir. Elle examina ma main de plus près, puis déposa un baiser, puis la replaça sur sa poitrine. « Cela ne t'oblige pas à rester seule sans rien faire en attendant son retour ?» chuchota-t-elle. Fenouil m'épargna la gêne d'un refus. « Tu veux un rat ?» Je levai les yeux. Le charou était tapis au bord de la soupente et nous regardait une proie s'agitant entre ses crocs. « On peut encore s'amuser longtemps avec. »« Non, tue-le, c'est tout. » Je percevais l'étincelle rouge de la souffrance du rat. Il n'avait aucun espoir de survivre, mais la vie ne le quitterait pas facilement. La vie ne renonce jamais à lutter. Fenouil fit la sourde oreille. Il sauta de son perchoir pour atterrir près de nous sur le lit, où il lâcha son gibier. Éperdu, le rongeur s'élança vers nous sur trois pattes, traînant la quatrième derrière lui. Gina poussa un cri de dégoût et bondit hors des draps. Je saisis vivement le rat et mis fin à son martyre d'une torsion du poignet.
« Tu es rapide, » dit Fenouil d'un ton appréciateur.
« Tiens, prends-le et emporte-le. » Je lui tendis le cadavre. Il le flaira.
« Tu l'as cassé. »
Le chat se coucha et les yeux ronds me jeta un regard désapprobateur. « Emporte-le. »
« Je n'en veux pas. Il n'est plus amusant. »
Il m'adressa un grondement sourd, puis sauta sur le plancher.
« Tu l'as fini trop vite. Tu ne sais pas jouer. »
Il se dirigea droit vers la porte et se fit les griffes sur le chambranle, demandant à sortir. Gina, cachant sa nudité derrière sa robe, lui ouvrit et il se faufila par l'entrebâillement. Je restais assis au milieu du lit, nu comme un ver, un rat mort entre les mains. Du sang coulait de son museau et de sa bouche dans mes paumes. Gina me jeta mon pantalon et mon caleçon en paquet.
« Ne mets pas de sang sur mes draps, » me dit-elle.
Aussi, gardant le rat dans une main, j'enfilai tant bien que mal mes vêtements de l'autre. Je me débarrassai ensuite du cadavre sur un tas de fumier derrière la maison. Quand je rentrais, Gina versait de l'eau bouillante sur des feuilles dans une tisanière. Elle me sourit.
« C'est curieux, mais l'infusion que j'avais préparée à ton arrivée a refroidi.
« Tiens donc, » dis-je, en m'efforçant d'imiter son ton badin. Je retournai dans sa chambre mettre ma chemise, puis refis le lit en évitant de poser les yeux sur l'amulette. Quand j'eus fini, je réduisis au silence mon envie de partir et m'assis à la table, où nous nous restaurâmes de tartines beurrées au miel accompagnées de tisanes brûlantes. Gina me parla des trois femmes que j'avais croisées sur le pas de sa porte. Elle avait lu les lignes de la main de la plus jeune des filles afin de voir ce qu'auguraient certaines demandes en mariage, et elle lui avait conseillé de reporter sa réponse à plus tard. Elle me raconta toute l'histoire, longue et compliquée, avec force détails, et je l'écoutais d'une oreille distraite. Fenouil s'approcha de moi, se dressa sur ses pattes de derrière, planta ses griffes dans ma cuisse et se hissa sur mes genoux. Ainsi juché, il parcourut la table du regard.
« Du beurre pour le chat. »«
Je n'ai aucune raison de me prêter à tes caprices. »«
Si, je suis le chat. »
Devant cette suprême assurance, je ne pus que beurrer un bout de pain et le lui donner. Je m'attendais à ce qu'il l'emporte pour le manger, mais non. Il me fit l'honneur de me laisser tenir le croûton pendant qu'il le léchait avec application.
« Encore ?»«
Non. »
Ou bien Heure risque de se retrouver dans une situation tout aussi désagréable.
Je tentai de remonter le fil de ce dont parlait Gina, mais compris aussitôt que je l'avais lâché depuis trop longtemps. Sans prêter attention à Fenouil qui enfonçait vicieusement ses griffes dans mes cuisses, je répondis. De toute façon, j'avais l'intention de m'entretenir avec lui aujourd'hui, en espérant ne pas dire de bêtises.
Tu ferais bien, oui. Naturellement, l'attendre ici ne sert à rien. Même si tu étais venu hier soir, tu aurais dû rester debout bien avant dans la nuit pour le voir. Il rentre à des heures indues, en pleine nuit, et chaque matin, il part en retard pour son travail.
Je sentis l'inquiétude m'envahir. Un tel comportement ne ressemblait pas à Heure. Que dois-je faire, à ton avis? Elle poussa un soupir légèrement agacé, réaction que j'avais sans doute méritée.
Ce que je viens de te dire, te rendre à la boutique et parler à son maître. Demande à t'entretenir un instant avec Heure. Mets-le au pied du mur et impose-lui quelques règles, en le menaçant, s'il ne les observe pas, d'exiger qu'il loge chez son maître comme les autres apprentis. Donne-lui le choix entre se brider lui-même et se laisser brider. Car s'il emménage dans les quartiers des apprentis, il n'aura droit qu'à une soirée libre deux fois par mois.
J'écoutais désormais Gina avec la plus grande attention. Tous les autres élèves de Guindas habitent donc chez leur maître. Elle me dévisagea d'un air abasourdi.
« Mais naturellement. Et il les tient de court, ce qui ferait peut-être du bien à Heure. Mais tu es son père et tu sais sans doute mieux que moi ce dont il a besoin. »«
Jamais il n'a eu besoin qu'on le tienne en laisse, » dis-je doucement.
« Oui, parce que vous viviez à la campagne, pas au milieu des tavernes et des jeunes femmes. »«
Oui. Mais je n'avais pas songé qu'il pourrait loger chez son maître. »
Les apprentis habitent à l'arrière de l'atelier de Guindast, ce qui leur permet de se lever, faire leur toilette, prendre leur petit déjeuner et se mettre au travail dès l'aube. Tu n'étais pas en pension chez ton maître autrefois?
Si, sans doute, maintenant que j'y pensais. Mais je n'avais jamais perçu ma situation sous cet angle. Je n'ai pas suivi d'apprentissage dans les règles, répondis-je, en mentant effrontément. Ce que tu m'apprends est donc tout nouveau pour moi. Je croyais devoir fournir le gîte et le couvert à Heure, c'est pourquoi j'ai apporté ceci. J'ouvris ma bourse et la vidai sur la table. Devant les pièces étalées, j'éprouvais soudain un sentiment de gêne. Et si Gina voyait dans mon geste le paiement d'un autre service? Elle me regarda un moment en silence, puis déclara
« Tom, j'ai à peine entamé l'argent que tu m'as déjà fait parvenir. Combien crois-tu que coûte l'entretien d'un jeune garçon ?»
Je haussai les épaules d'un air d'excuse. Encore un domaine de la vie citadine que j'ignore. À la maison, la basse-cour, le potager et la chasse suffisaient à nos besoins. Mais je sais que Heure dévore après une journée de labeur, et je pensais qu'il reviendrait cher à nourrir. Ambre avait dû faire envoyer une bourse à Gina, mais je n'avais aucune idée de la somme qu'elle contenait.
« Eh bien, quand j'aurai épuisé son allocation, je te préviendrai. Pouvoir utiliser la ponette et la carriole soulage bien ma nièce. Il y a longtemps qu'elle veut acheter un attelage, mais tu sais combien il est difficile d'économiser assez pour cela. »
Je lui en laisse l'usage de grand cœur. Comme Heur te l'a dit, il vaut mieux pour Trèfle de prendre de l'exercice que de rester cloîtré dans une écurie. Tiens, j'y pense, il faut aussi que je paye pour son fourrage.
Nous n'avons pas de mal à nous en procurer, et il me paraît normal que nous fournissions nous-mêmes la nourriture d'un animal dont nous nous servons.
Elle se tut et parcourut la pièce du regard. Tu vas donc voir Heur aujourd'hui? Bien sûr. C'est pour ça que je suis descendu en ville. Non sans un certain embarras, je commençais à former des piles de pièces avant de les remettre dans ma bourse.
« Ah, c'est donc pourquoi tu es passé chez moi ?»
dit Gina avec un sourire taquin.
« D'accord, je ne veux pas te retenir plus longtemps. »
Je compris. Il était temps pour moi de m'en aller. Je fis glisser les pièces dans ma bourse et me levai. « Eh bien, merci pour la tisane. » fis-je avant de m'interrompre brusquement. Gina éclata d'un rire gentiment moqueur et je sentis mes joues devenir écarlates. Mais je réussis tout de même à sourire. Devant elle, je me sentais aussi mal à l'aise qu'un adolescent qui s'est ridiculisé. J'en ignorais la raison, mais cette impression ne me plaisait pas du tout. « Bon, eh bien, je vais voir Heur. »«
C'est ça, » répondit-elle.
Et elle me tendit ma cape. Je m'arrêtai à la porte pour enfiler mes bottes. Je venais de me redresser quand on frappa.
« Un instant !»
cria Gina. Et je sortis en saluant au passage son client, un jeune homme à l'expression tourmentée. Il esquissa en réponse une inclination du buste, puis entra promptement. La porte se referma, tandis que Gina lui souhaitait la bienvenue, et je me retrouvai seul une fois de plus dans la rue venteuse. Je me dirigeai à pas lents vers la boutique de Guindast. L'air se refroidissait et commençait à sentir la neige. L'été s'était longuement attardé, mais l'hiver tenait désormais le terrain. Levant les yeux vers le ciel, je jugeais que les flocons allaient tomber de rue, ce qui suscita en moi des sentiments mélangés. Quelques mois plus tôt, pareille constatation m'aurait incité à vérifier ma réserve de bois, puis à effectuer une dernière inspection critique de mes provisions pour l'hiver. À présent, c'était le trône des loins voyants qui pourvoyait à mes besoins. Ma survie assurée, je n'avais plus à me soucier que de celle de la lignée royale. C'était là un joug auquel je ne me faisais pas encore tout à fait. Guindast était connu à Bourg de Castelserre, et je n'eus aucun mal à trouver son échoppe, à l'enseigne minutieusement gravée et splendidement encadrée comme pour mieux afficher son talent. Le décor de l'entrée simulait un salon accueillant, où des fauteuils confortables entouraient une grande table. Un feu de copeaux de bois sec brûlait joyeusement dans l'âtre, et plusieurs des plus belles pièces du maître étaient exposées au regard des clients potentiels. Le jeune homme responsable de la boutique écouta ma requête, puis me fit signe de gagner l'arrière. Le bâtiment évoquait une grange remplie d'ouvrages à différents stades d'exécution. Un immense chalet s'étendait près d'un jeu de coffres en cèdre doriférant marqué d'un emblème en forme de chouette. Agenouillé, un compagnon peignait des taches sur les silhouettes d'oiseaux. Guindast était absent. Il s'était rendu, avec trois de ses ouvriers, au château du seigneur Faucheux, pour prendre des mesures et discuter de la fabrication d'un imposant linteau de cheminée et de fauteuils assortis. Un de ses compagnons les plus anciens, un homme guère plus jeune que moi, me donna l'autorisation de m'entretenir un moment avec Heur. Il déclara ensuite d'un ton grave qu'il pourrait être bon que je repasse prendre rendez-vous avec maître Guindast afin de discuter des progrès de mon fils. Au ton qu'il employait, la rencontre paraissait lourde de menaces. Je trouvai Heur derrière la boutique en compagnie de quatre autres apprentis, tous plus petits et, me sembla-t-il, plus jeunes que lui. Ils étaient occupés à déplacer une pile de bois dont ils retournaient chaque morceau avant de le reposer. Aux traces visibles sur la terre battue, je compris qu'il s'agissait du troisième tas ainsi traité. Les deux précédents étaient recouverts de toile maintenue par des cordes. Heur affichait une mine sombre, comme s'il prenait pour un affront personnel la corvée inintéressante, mais nécessaire qu'on lui avait confiée. Profitant de ce qu'il n'avait pas remarqué ma présence, je l'observai un moment. et ce que je vis me troubla. À la chaumière, il ne rechignait jamais à la tâche, mais aujourd'hui je décelais de la colère dans tous ses gestes et de l'impatience à travailler avec des enfants moins âgés et moins robustes que lui. Je restais à le regarder sans rien dire, et il finit par lever les yeux vers moi. Il déposa la planche qu'il portait et se redressa, murmura quelques mots aux autres apprentis, puis se dirigea vers moi à grandes enjambées, les épaules carrées. Je me demandais, alors qu'il s'approchait, ce qui, dans son attitude, provenait de ce qu'il ressentait réellement et ce qui relevait de la comédie à l'usage de ses jeunes camarades. En tout cas, je n'aimais guère le dédain qu'elle exprimait pour la tâche qui l'occupait. Je le saluai gravement. « Tom, répondit-il. Nous nous serrâmes les poignets, puis il reprit à mi-voix. « Tu vois maintenant de quoi je parlais ?»« Je vois que tu tournes du bois pour qu'il sèche bien. Ça me paraît un travail indispensable chez un ébéniste. » Il soupira.
« Ça ne me dérangerait pas trop si ce n'était que de temps en temps. » Mais toutes les tâches qu'on me donne font appel uniquement à mes muscles, et pas du tout à mon cerveau.
Les autres apprentis ont-ils droit à un traitement différent?
Non,
reconnut-il à contre-cœur.
Mais regarde-les, ce ne sont que des gosses.
Ça n'y change rien, dis-je. Ce n'est pas une question d'âge, mais d'expérience. Sois patient. Tu as de quoi apprendre de tout travail. Ne serait-ce que la façon de confectionner un tas de bois et la connaissance que tu acquiers en envoyant un fait convenablement. De plus, c'est une corvée nécessaire. À qui d'autre pourrait-on la confier? Il avait baissé les yeux pendant mon sermon, et s'il ne répondit pas, il n'en était pas convaincu pour autant. Je repris. Crois-tu que tu t'en tirerais mieux si tu logeais ici avec les autres apprentis plutôt que chez Gina? Il leva vers moi un regard à la fois outré et atterré.
« Non ? D'où vient une idée pareille ?»«
Ma foi, j'ai appris que c'était la coutume. Habiter sur place te faciliterait peut-être la vie. Tu aurais moins de chemin à parcourir pour arriver à l'heure le matin et... »«
Je deviendrais fou si je devais vivre ici en plus d'y travailler. » »« Les autres m'ont raconté comment ça se passe. On mange la même chose à tous les repas et la femme de Guindas tire le compte des bougies pour être sûre qu'on ne les laisse pas allumer tard le soir. » Il faut aérer les lits, laver soi-même ses couvertures et ses sous-vêtements toutes les semaines. En plus, Guindas t'impose des corvées supplémentaires après le boulot. Pelleter de la sciure pour payer les rosiers de sa femme, ramasser les copeaux pour le petit bois, faire...
Je l'interrompis car il s'énervait manifestement tout seul. Ça ne me paraît pas si terrible. C'est une existence disciplinée, comme celle d'un homme d'armes durant sa formation. Ça ne te ferait pas de mal, Il jeta les bras en l'air d'un geste furieux.
« Ça ne me ferait pas de bien non plus. Si j'avais décidé de gagner ma vie en fracassant des têtes, là d'accord, je comprendrais qu'on me dresse comme un animal. Mais je ne m'attendais pas à ce que mon apprentissage se passe ainsi. »
« Tu estimes donc t'être trompé de voix ?» demandai-je. Et je retins mon souffle en attendant sa réponse. S'il avait changé d'avis, j'ignorais que faire de lui. Je ne pouvais pas le loger avec moi à Castelserre, ni le renvoyer seul à la chaumière. Avec réticence, il déclara.
« Non, je ne me suis pas fourvoyé. C'est bien le métier qui m'intéresse. Mais il vaudrait mieux que mon véritable enseignement commence bientôt, sinon... »
Il laissa sa phrase en suspens. Lui aussi ignorait ce qu'il deviendrait s'il quittait Guindast. Je voulus y voir un signe de bon augure. « Je me réjouis que tu tiennes toujours à apprendre l'ébénisterie. » Tâche de faire preuve d'humilité, de patience. Applique-toi, écoute et retiens. Je crois que, si tu suis mes conseils et que tu apprends vite, on t'affectera sous peu à des tâches plus intéressantes. J'essaierai de te voir ce soir, mais je n'ose plus formuler de promesses. Avec Cire Dorée, je ne manque pas d'occupation, et j'ai déjà eu du mal à obtenir ces quelques heures de liberté.
Très bien, mais ne passe pas ici. Rends-toi au port coincé. C'est à côté de chez Gina.
Et ? Fis-je pour l'inciter à poursuivre, sachant qu'il y avait une autre raison.
Et je te présenterai Svania. Elle habite tout près et elle guette mon arrivée. Quand elle en a la possibilité, elle me rejoint à la taverne.
Lorsqu'elle parvient à sortir discrètement de chez elle, tu veux dire ?
Oui, il y a de ça. Sa mère est indifférente, mais son père me déteste.
Pour commencer sa course, ce n'est pas l'idéal, Heur. Qu'as-tu fait pour mériter son aversion ?
J'ai embrassé sa fille.
Et il eut un grand sourire crâneur que je ne pus m'empêcher de lui rendre. Eh bien, nous en parlerons aussi ce soir. Je te trouve un peu jeune pour courtiser une fille. Mieux vaudrait attendre que tu aies des perspectives d'avenir solides et de quoi subvenir aux besoins d'une épouse. Son père fermerait peut-être alors les yeux sur un ou deux baisers volés. Si je réussis à me libérer, je te retrouverai tout à l'heure à la taverne. L'humeur de mon garçon paraissait radoucie quand il me salua de la main avant de reprendre son travail d'empilage. En revanche, je me sentais le cœur lourd en m'éloignant. Gina ne s'était pas trompée. La vie en ville changeait heure et l'entraînait dans des directions que je n'avais pas prévues. Je n'avais pas l'impression qu'il avait vraiment prêté l'oreille à mes conseils, ni donc qu'il allait en tenir compte. Ma foi, peut-être devrais-je me montrer plus ferme quand je le reverrai. Comme je traversais le bourg, les premiers flocons de neige firent leur apparition. Et quand j'arrivais à la route qui montait en lacets jusqu'au château, ils se mirent à tomber dru en une averse moelleuse. À plusieurs reprises, je m'arrêtais dans le sous-bois pour observer la chaussée, mais je n'aperçus nul signe de poursuite. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi les pies m'avaient menacé, puis avaient aussitôt disparu alors que je me trouvais à leur merci. La logique aurait voulu qu'ils me tuent, ou me prennent en otage. Je m'efforçais de me mettre à leur place, d'imaginer une raison expliquant qu'ils laissent leur proie en liberté, mais rien ne me vint. Quand je parvins aux portes de la citadelle, un épais manteau blanc recouvrait le paysage, et le vent avait commencé à siffler à la cime des arbres. Le ciel bas avançait l'heure du crépuscule. Le temps s'annonçait épouvantable pour la nuit, et je me réjouissais de la passer à l'abri. Je tapais des pieds pour débarrasser mes bottes de leur neige devant le seuil de la grande pièce sur laquelle donnaient les cuisines et la salle des gardes. En y pénétrant, je sentis un mélange d'odeurs, de bouillon de bœuf chaud, pain frais et laine mouillée. J'étais là, et j'aurais aimé pouvoir me mêler aux soldats, partager leurs repas simples, leurs grosses plaisanteries et leurs décontractions. Mais je redressai les épaules, pressai le pas et me rendis aux appartements de Sire Doré. Il ne s'y trouvait pas, et je me rappelais alors qu'il m'avait dit être invité chez la reine à participer à un jeu outrilien. Je supposais devoir l'y rejoindre. J'entrai dans ma chambre pour ôter ma cape humide et découvris un bout de parchemin sur mon lit. Il portait un seul mot, « monte ». Peu après, je débouchai dans la salle d'imbre. Elle était déserte, mais un change de vêtements chauds m'attendait sur mon fauteuil, accompagné d'un manteau vert en laine épaisse, muni d'une capuche démesurée. L'endroit portait un emblème inconnu représentant une loutre, et, plus inhabituel, l'envers était doublé de simples toiles, du bleu de la domesticité. Je trouvai à côté un sac de voyage en cuir contenant des vivres et un flacon d'eau-de-vie, et en dessous, aplati et plié, un étui à parchemin en cuir également. Sur cet attirail était posé un billet de la main d'Imbre. La troupe de femmes part en patrouille à la porte nord ce soir au coucher du soleil. Joint-y, puis quitte-la pour effectuer ta mission. J'espère que tu ne regretteras pas trop de manquer la fête des moissons. Reviens le plus vite possible, je t'en prie. J'eus un petit rire de dérision. La fête des moissons. Avec quelle impatience je l'attendais quand j'étais enfant. Et aujourd'hui, j'avais presque oublié que la date en approchait. Ce n'était sans doute pas un hasard si la cérémonie de fiançailles du prince avait eu lieu juste avant cette célébration de l'abondance. Ma foi, je n'y avais plus assisté depuis 15 ans. Une fois de plus, ne me dérangerait pas. Un repas copieux était disposé à une extrémité de la table de travail. Viande froide, fromage, pain et bière. Je me résolus à faire confiance à Imbre pour expliquer mon absence auprès de Sire Doré. Je n'avais pas le temps d'aller trouver le fou pour lui annoncer mon départ, et il me semblait risqué de lui laisser un message. Je songeais avec regret à mon rendez-vous avec Heur, d'ores et déjà reporté, et je me consolais à l'idée de l'avoir prévenu que je risquais de ne pouvoir m'y présenter. En outre, l'occasion inattendue qui m'était offerte d'agir seul exerçait sur moi un attrait irrésistible. Je voulais vérifier une fois pour toutes si l'épi avait repéré ma tanière, et même si je découvrais que c'était le cas, j'aimais mieux cela que rester dans l'incertitude à me ronger les sangs. Je me restaurais, puis changeai de vêtements. À l'heure où le soleil se couche, je m'approchai de la porte nord, monté sur ma noire, mon capuchon bien rabattu sur mon visage pour me protéger du vent mordant et des bourrasques de neige. D'autres cavaliers anonymes, emmitouflés dans des manteaux verts, se regroupaient, certains se plaignant amèrement de devoir patrouiller sur les routes, tandis que les festivités des fiançailles et des moissons battraient leur plein. Je me joignis à eux et hochai la tête avec commisération au propos d'un bavard qui régalait la nuit du récit de ses malheurs. Il s'était lancé dans la longue évocation d'une femme, la plus accueillante et la mieux disposée qui se puisse imaginer, qui allait l'attendre en vain ce soir dans une taverne du bourg de Castelserre. Assis à côté de lui sur ma jument, je le laissais dévider son histoire alors que de nouveaux venus s'agrégeaient à notre groupe. Dans l'obscurité croissante, des cavaliers indistincts courbaient le dos sous leurs manteaux et leurs capuches. Nos traits disparaissaient derrière les écharpes et dans la pénombre. La nuit était tombée quand Epham se montra enfin. Apparemment aussi contrarié que sa troupe, il annonça d'un ton brusque que nous gagnerions rapidement Primgay pour assurer la relève de la garde, puis que nous entamerions la patrouille habituelle des routes au matin. Ces hommes semblaient familiers de cette activité de service, et nous nous plaçâmes derrière lui sur deux colonnes à l'alignement approximatif. J'eus soin de prendre position parmi les derniers. Puis, il se mit en marche, et nous franchîmes la porte pour nous enfoncer dans la nuit et la tourmente. Pendant quelque temps, la route suivit une pente raide, puis nous bifurquâmes sur la piste du fleuve qui partait vers l'est le long de la serre. Une fois les lumières de Castelserre loin derrière nous, je commençai à retenir ma noire. Elle n'appréciait ni le mauvais temps, ni l'obscurité, et ne se fit pas prier pour ralentir. À un moment, je tirai les rênes et mis pied à terre sous prétexte de resserrer une sangle, et la patrouille poursuivit son chemin dans la tempête de neige. Je remontai en selle et la rejoignis, mais je me trouvais désormais en dernière position. Je continuai de freiner l'allure pour accroître la distance qui me séparait du reste de la troupe, et quand les soldats disparurent enfin dans un virage, je fis arrêter ma jument. Je descendis à nouveau de ma selle et fis semblant de régler des courroies du harnais en espérant que les tourbillons de neige dissimuleraient mon absence. Au bout de quelques minutes, personne n'étant revenu sur ses pas voir ce qui me retenait, je retournai mon manteau, remontai sur ma noire et repartis en sens inverse. Comme Imbre me l'avait demandé, je me hâtai, mais je me heurtai à des retards inévitables. Je dus attendre pour franchir la serre le bac du matin, dont la tourmente alourdissait de glace le pont et les câbles, et ralentit notre embarquement et notre traversée. Sur l'autre berge, je constatai que la route était plus large, mieux entretenue et plus fréquentée que dans mes souvenirs. Une bourgade prospère où se tenait un marché permanent s'était développée sur ses bords. Ses tavernes et maisons particulières, bâties sur pilotis pour échapper aux crues, qu'elles fussent saisonnières ou dues aux tempêtes. À midi, elle se trouvait déjà loin derrière moi. Le trajet qui me ramenait chez moi se déroula sans incident, au sens où l'on entend ce terme ordinairement. Je m'arrêtai plusieurs fois dans de petites auberges sans caractère particulier, et mon sommeil ne fut troublé que dans une seule d'entre elles. Mon rêve avait commencé de façon paisible. Un feu brûlait joyeusement dans un âtre, et j'entendais les membres d'une famille bavarder, tout en s'occupant des tâches du soir.
« Ouf ! Descends de là, ma fille. Tu es beaucoup trop grande pour t'asseoir encore sur mes genoux. »
« Je ne serai jamais trop grande pour les genoux de mon papa. » J'avais perçu un rire dans la voix. « À quoi travailles-tu ? » ?»«
Je répare une des chaussures de ta mère, du moins. J'essaye. Tiens, enfile-moi donc cette haleine. À la lumière du feu, j'ai du mal à voir le chat. Tu y arriveras mieux avec tes jeunes yeux. »
C'est cette phrase qui m'avait réveillé. Bouleversé d'entendre papa avouer que sa vue baissait. Je m'étais efforcé d'écarter cette idée de mon esprit, tandis que je glissais à nouveau dans un sommeil vigilant. Nul ne paraissait remarquer mon passage. Je profitais de ces journées pour améliorer les manières de ma noire, et nous évaluâmes nos volontés réciproques de toutes sortes de façons. Le temps restait affreux. La nuit, le vent soufflait de la neige et du grésil, et le jour, lorsqu'à l'occasion la tourmente se calmait brièvement, la neige fondait superficiellement sous le soleil indistinct, transformant la terre de la route en boue, que je retrouvais figée en glace sale et traîtresse le lendemain matin. Voyager dans ces conditions n'était pas un plaisir. Toutefois, le froid qui m'assaillit pendant ce trajet n'était pas entièrement dû au climat. Nul loup ne partait en éclaireur devant moi pour voir si la route était dégagée, ni derrière pour vérifier qu'on ne nous suivait pas. Je devais me fier à mes seuls sens et à ma seule épée pour me protéger. Je me sentais nu et amputé. Le soleil perça les nuages l'après-midi où j'abordais le sentier qui menait à ma chaumine. Les flocons avaient cessé de tomber et la chaleur relative changeait leur dernière chute en un tapis spongieux, humide et lourd. Des chocs sourds me parvenaient de la forêt chaque fois qu'un arbre laissait choir son fardeau de neige. Le chemin de ma maison était uni et intact, sauf là où des lapins l'avaient traversé et où des branches avaient déversé leur charge en excès. Sans doute personne ne l'avait-il emprunté depuis le début de la tempête. C'était rassurant. Pourtant, quand je parvins devant la bâtisse, l'inquiétude me saisit à nouveau. À l'évidence, quelqu'un l'avait visité, et tout récemment. La porte était ouverte, et des monticules de taille inégale indiquaient l'emplacement des meubles et autres affaires qu'on avait jetées dans la cour. Des parchemins pointaient de la neige qu'on devinait piétiner sous le tapis de la dernière chute. La clôture du potager avait été abattue, tout comme le poteau auquel pendait l'amulette de Gina. Je restais un moment immobile sur ma jument, m'efforçant de conserver un visage impassible, tandis que mes yeux et mes oreilles glanaient tous les renseignements possibles. Puis je mis pied à terre sans bruit et m'approchai de la chaumière. Elle était vide, et il y faisait froid et sombre. J'eus une impression de déjà-vu, puis une vague d'angoisse m'envahit et me permit de mettre le doigt sur le souvenir évanescent. Celui d'une maison où j'étais revenu après que des forgisés l'avaient pillé. Dans la lumière du jour déclinant, je distinguai les traces de pattes boueuses d'un porc sur le sol. Poussé par la curiosité, plusieurs animaux avaient fouillé la chaumine. Il y avait aussi des empreintes de bottes, dont l'entrecroisement m'indiquait qu'on avait fait de nombreux allers et retours entre l'intérieur et l'extérieur. On avait volé tous les objets utiles et facilement transportables. Couverture des lits, salaison et fumaison pendues aux poutres, marmites et casseroles de la cheminée, tout avait disparu. On s'était servi de manuscrits pour allumer un feu dans l'âtre, et on avait mangé dans la pièce principale, sans doute en piochant dans les réserves que Heure et moi avions constituées pour l'hiver. Il restait des arêtes près des cendres froides. Les traces de pattes de porc suscitaient chez moi de forts soupçons quant à l'identité du visiteur indélicat. Mon bureau n'avait pas bougé. Illettré, mon voisin ne devait guère avoir besoin d'un tel meuble. Dans la petite pièce, les encriers avaient été renversés. Des parchemins déroulés puis jetés par terre. Cela m'inquiéta profondément. Dans un pareil désordre, il m'était impossible de savoir s'il manquait des manuscrits, si des pies avaient fouillé mes possessions à l'instar du porcher. La carte de vérité demeurait fixée de guingois au mur, et je m'étonnais de la violence de mon soulagement à la voir intacte. Je ne m'étais pas rendu compte que j'y tenais à ce point. Je la décrochais, la roulais et l'emportais tandis que je poursuivais l'examen du sac de ma maison. J'entrepris de scruter minutieusement chaque pièce, sans oublier l'écurie et le poulailler, avant de commencer à réunir ce que j'allais récupérer. La petite réserve de grains et tous les ustensiles avaient disparu de la pantie de l'écurie, et je trouvais dans ma remise un méli-mélo d'outils rejetés. Il me paraissait peu vraisemblable que ce fût l'œuvre de Pie. Mes suspicions concernant un voisin désagréable qui occupait le vallon à côté du mien devenaient conviction. Il élevait des cochons et m'avait accusé une fois de lui avoir dérobé des bêtes. Lors de mon départ précipité, j'avais dit à Heure de lui remettre nos poules, non par bonté d'âme, mais parce que je savais qu'il en prendrait soin pour leurs œufs. Cette solution m'avait paru plus humaine que les laisser se faire tuer par les prédateurs. Mais, naturellement, il avait compris que nous comptions rester absents pendant une longue période. Je parcourus des yeux la petite écurie, les poings crispés. Je ne reviendrai sans doute plus jamais dans la chaumière, et même si les outils s'y étaient encore trouvés, je les aurais laissés sur place. Quel usage avais-je désormais d'une pioche ou d'une houe? Pourtant, ce pillage était une injure difficile à mépriser, et l'envie de me venger bouillonnait en moi alors que je me répétais que je n'en avais pas le temps, que le voleur m'avait peut-être rendu service en saccageant ma maison avant le passage des pies. J'installai ma noire dans l'écurie, lui donnait à manger le mauvais foin qui restait, lui tirai un seau d'eau, après quoi je m'attelai à mon entreprise de récupération et de destruction. À l'examen, l'amoncellement recouvert de neige dans la cour se révéla composé d'un chalet, de ma table, de mes chaises et de plusieurs étagères, sans doute déposées là par mon voisin, dans l'intention de revenir les chercher avec une carriole. J'allais les brûler. Je dégageai un peu la neige, contemplai avec regret le cerf argent que le fou avait sculpté sur le plateau de ma table, puis me rendis dans la maison pour chercher de quoi allumer un feu. La paille de mon matelas qui traînait au milieu de la pièce principale convenait parfaitement, et en peu de temps, j'obtins un superbe brasier. Je m'efforçai d'opérer avec méthode. Profitant de la clarté déclinante du jour, je m'attachai à ramasser tous les manuscrits qui avaient été jetés dans la cour. L'humidité en avait définitivement abîmé certains. D'autres avaient été piétinés et déchirés par des sabots boueux, et d'autres encore n'existaient plus que sous forme de fragments. Je n'oubliais pas les recommandations d'Imbre et tâchais d'en sauver quelques-uns en les lissant, puis en les roulant, même quand il n'en restait plus que de petits morceaux. Mais je livrais impitoyablement la plupart aux flammes. Enfin, je quadrillais la cour en donnant des coups de pied dans la neige jusqu'à ce que j'eusse acquis la conviction raisonnable qu'il n'y subsistait plus un texte de ma main. Le soir était tombé. Je rentrai dans la chaumière et j'allumai un feu dans la cheminée, autant par souci de m'éclairer que de me tenir chaud. Puis je commençai à faire le tri de mes possessions. La majorité finit dans la flambée. Vieille tenue de travail, instruments d'écriture, tire-bottes et autres articles inutiles. J'eus le cœur moins dur avec les affaires de Heur. Il tenait peut-être à sa toupie, avec laquelle il ne jouait pourtant plus depuis longtemps. Prenant un vieux manteau comme baluchon, j'y entassai ce genre de bric-à-brac, puis je m'installai près de l'âtre et opérai un choix soigneux des manuscrits de ma bibliothèque. Ils étaient beaucoup plus nombreux que je ne m'y attendais, bien trop pour que je puisse les emporter tous. Je décidai d'abord de garder ceux que je n'avais pas écrits moi-même. La carte de vérité alla naturellement dans l'étui, où la rejoignirent bientôt des parchemins acquis durant mes pérégrinations ou apportés par Astérie. Certains étaient fort vieux et rares. Je me réjouis de les trouver intacts et résolu d'en effectuer des copies une fois de retour à Castelserre. Mais hormis ces documents, ma sélection fut féroce, et rien de ce qui provenait de ma plume n'échappa à un examen approfondi. Mes traités sur les simples illustrés de dessins méticuleux alimentèrent le feu. Toutes ces connaissances, je les gardais en mémoire, et si besoin était, je pouvais les coucher à nouveau sur le vélin. Je ne conservais donc que peu de ces textes. Négligeant les recommandations du bon sens, je fourrais dans mon sac improvisé les manuscrits qui parlaient de mon séjour dans les montagnes, et ceux où j'exposais mes réflexions sur ma vie. Une lecture rapide de certains fit monter le rouge à mes joues. Quelle puérilité! Quelle sensiblerie outrée! Ce n'était que plainte sur mon sort, affirmation échevelée de ma propre importance et grande résolution. Mais qui donc étais-je quand j'avais écrit ces lignes? Je glissais dans l'étui mon traité sur l'art et le vif, ainsi que ma longue relation de notre traversée du royaume des montagnes, de notre arrivée dans celui des anciens et de la naissance de Vérité le dragon. Mes poèmes maladroits sur Molly finirent dans les flammes, où ils brûlèrent dans une ultime bouffée de passion. L'abécédaire et les tableaux de chiffres que j'avais tracés pour apprendre à Heur à écrire et calculer les suivirent. Je terminai mon tri et m'aperçus qu'il restait encore trop de documents. Ils subirent donc une seconde sélection, encore plus impitoyable, et enfin je pus boucler l'étui. Alors je me levai, fermai les yeux et m'efforçai de réfléchir. Avais-je oublié des manuscrits? Je finis par conclure qu'il m'était impossible de me les rappeler tous. J'avais eu assez de discernement pour en détruire certains quelques jours après les avoir écrits, et j'en avais confié d'autres à Astérie pour qu'elle les remette à Imbre. J'étais incapable de savoir s'il en manquait. Qu'on essaye de se souvenir de tout ce qu'on a couché sur le papier durant 15 années de sa vie, et on constatera immanquablement des lacunes. Avais-je jamais rédigé un compte-rendu de mon séjour en compagnie de Rolf le Noir et d'autres membres du lignage? Je savais avoir évoqué ces quelques mois dans un texte, mais faisait-il l'objet d'un parchemin à part, ou bien avais-je simplement émaillé d'autres écrits d'épisodes de cette époque? Je l'ignorais. En outre, comment déterminer quel manuscrit le porcher avait utilisé pour allumer son feu? Je soupirais. Mieux valait abandonner. J'avais fait mon possible. À l'avenir, je ferai preuve de plus de circonspection avant de confier mes pensées à ma plume. Je ressortis dans la cour et repoussai les extrémités encore intactes des meubles dans le brasier. Le vent qui se levait à nouveau et la neige auraient au fait de l'étouffer, mais les flammes avaient entièrement rongé la gravure du cerf argent, et le reste n'avait guère d'importance. J'effectuai un dernier tour de la petite chaumière qui m'avait si longtemps abrité. Je n'y avais laissé aucune affaire personnelle. Toute trace de ma présence était effacée. Je me demandais si je devais bouter le feu à la bâtisse, et préférais m'en abstenir. Elle était là avant mon arrivée. Qu'elle subsiste après mon départ. Peut-être servirait-elle à un autre homme dans le besoin qui passerait par là. Je scellai ma noire et la menai hors de l'écurie, puis je glissai dans ses fontes l'étui à manuscrit et le baluchon qui contenait les affaires de Heure. J'ajoutai deux derniers objets, deux pots hermétiquement fermés, l'un d'écorce elfique moulue, l'autre de carim. Enfin, je mis le pied à l'étrier et m'éloignait de ce bout de mon existence. Le brasier de mon passé en train de brûler faisait danser des ombres étranges devant nous, tandis que nous nous enfoncions dans la tourmente renaissante.